Bonjour à tous. Novak Djokovic a embarqué et son avion a décollé. Le numéro 1 mondial du tennis est arrivé à l'aéroport de Melbourne, escorté par la police australienne. Il vient donc de quitter l'Australie après l'annulation de son visa par les autorités. Les précisions de Grégory Pless et Fabrice Abgral dans un instant. Un dimanche politique avec le meeting cet après-midi à Nantes de Jean-Luc Mélenchon. Un meeting d'un nouveau genre au moment où la gauche et l'extrême gauche comptent depuis hier 8 candidats à la présidentielle. Invité de ce journal, Rémi Lefebvre, spécialiste de la gauche. Le pass vaccinal revient à l'Assemblée cet après-midi pour la dernière étape avant son adoption définitive. Dans le même temps, les chiffres de l'épidémie permettent un premier espoir. Dans ce journal également, des journalistes de l'AFP agressés violemment hier lors d'une manifestation anti-pass à Paris. Une violence inédite selon l'AFP. La météo, humide au nord, ensoleillée au sud. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition.
France Inter.
C'est donc la fin d'un feuilleton sans doute trop long. Novak Djokovic est définitivement privé de visa et d'Open d'Australie. Le numéro 1 du tennis mondial a perdu son recours ce matin devant la Cour fédérale australienne. Novak Djokovic est donc expulsé d'Australie et selon les médias australiens, il doit d'abord prendre un avion pour Dubaï avant de rentrer chez lui en Serbie. Ce matin, dans un communiqué, Novak Djokovic a déclaré être extrêmement déçu par la décision de la Cour. Sur place à Sydney, Grégory Pless.
Cette fois, c'est bel et bien fini pour le numéro 1 mondial. Ce dimanche, la Cour fédérale australienne a tué ses derniers espoirs de participation à l'Open d'Australie.
Le tribunal a décidé que le recours était rejeté.
Les arguments des avocats du joueur n'auront donc pas convaincu le tribunal dont les magistrats ont rappelé qu'ils ne jugeaient pas le bien fondé de la décision du ministre, mais seulement sa légalité. Novak Djokovic, qui devra également rembourser les frais engagés pour cette procédure, a indiqué qu'il respectait cette décision, même s'il a fait part dans un communiqué de son extrême déception. Le gouvernement australien, en revanche, a salué ce verdict qui lui permet de s'affirmer comme inflexible sur la protection des frontières. Un point positif dont a cruellement besoin Scott Morrison à quelques mois d'élection qui s'annonce très compliquée pour le camp conservateur. Et tant pis si au passage il a froissé le pouvoir serbe. Il y avait déjà de la friture sur la ligne avec Paris depuis l'affaire des sous-marins. Pas sûr que le courroux de Belgrade empêche Scott Morrison de dormir. Sydney, Grégory Pless, France Inter.
Tonalité et réaction bien sûr différentes. En Serbie, où le président Aleksandar Vučić fulmine, il estime que l'Australie, qui a humilié Djokovic, s'est humiliée elle-même. C'est donc une fin de partie pour Djokovic, non vacciné contre le Covid, et cette longue saga australienne pourrait avoir des répercussions sur ses sponsors et sa carrière, Fabrice Abgral.
Novak Djokovic va maintenant se poser des questions sur la suite de sa saison et peut-être même sur la suite de sa carrière. Le numéro 1 mondial avait l'occasion à Melbourne de remporter ce fameux 21e titre du Grand Chelem, ce qui lui aurait permis de dépasser Nadal et Federer et de détenir seul le record mythique du nombre de titres majeurs. Alors ce ne sera pas en Australie, où par ailleurs il risque, après cette annulation de visa, d'être interdit d'entrer durant 3 ans, comme le stipule la loi. Ce sera peut-être en revanche à Roland-Garros et Wimbledon, où le protocole sanitaire est plus souple. À Roland-Garros, les joueurs seront placés dans une bulle sanitaire. À Wimbledon, les non-vaccinés devront respecter une période de quarantaine avec tests réguliers. Mais ce sera en revanche impossible à l'US Open aux États-Unis où la vaccination est obligatoire. Il ne pourra pas disputer par exemple les 2 Masters 1000 organisés à Indian Wells en Californie et à Miami en Floride en mars prochain. Autant dire que Djokovic a tout intérêt à se faire vacciner pour ne pas compromettre la suite de sa saison, sinon il va s'exposer à des interdictions ou des complications en fonction des protocoles sanitaires mis en place dans les différents pays.
Et les réactions dans le monde du tennis. L'ATP, qui gère le tennis professionnel, estime que l'expulsion de Djokovic met un terme à une série d'événements profondément regrettables et que l'absence de Djokovic à l'Open d'Australie est une perte pour le tennis. Déception également pour Paul-Henri Mathieu, responsable du haut niveau à la Fédération française de tennis et consultant de France Inter.
Je pense pas qu'il avait émis le souhait de passer au-dessus des lois. Je pense qu'il y a eu une mésentente entre l'État de Victoria, le gouvernement et l'Open d'Australie. Et effectivement, c'est décevant pour tout le monde qui puisse pas disputer le tournoi. Les règles sont les mêmes pour tous. Après, effectivement, s'il voulait absolument jouer, être sûr de jouer à 100% l'Open d'Australie. S'il avait été vacciné, il aurait pu le faire. C'est son choix personnel. Il a demandé une dérogation qu'il pensait être valide. Ça n'a pas été le cas. Mais effectivement, la question va se poser aussi pour les tournois qui vont arriver et les prochains mois. À un moment donné, s'il va vouloir jouer de façon certaine les tournois, il va devoir se faire vacciner.
Paul-Henri Mathieu, ce matin sur France Info. La politique ce dimanche maintenant avec en point d'orgue à Nantes, le meeting de Jean-Luc Mélenchon. Un meeting d'un nouveau genre, annonce la France Insoumise, avec stimuli visuels, parfums et un lot d'innovations technologiques. 3000 personnes sont attendues pour ce meeting immersif, olfactif et avec masque FFP2. Bonjour Laurence Perron.
Bonjour.
En direct de Nantes, on va assister à une nouvelle expérimentation politique cet après-midi.
Oui, on vient de recevoir le livret du meeting que Jean-Luc Mélenchon avait appelé hier soir le libretto et on comprend mieux pourquoi. On s'apprête à assister à une sorte de grand space opéra immersif. Alors 4 écrans de 200 mètres de longueur en tout. Il y aura des images, des illustrations projetées à 360 degrés. 96 mètres carrés de LED au plafond, aussi de la musique, des textes d'Annie Ernaux à Virginie Despentes ou Pasolini. Le tout pensé en deux actes. Un premier pensé par la députée Clémentine Autain et le metteur en scène Christian Benedetti autour du thème des luttes, racisme, féminisme, gilets jaunes. Parmi les comédiens, Mireille Perrier ou Olivier Rabourdin qui jouaient notamment dans Des Hommes et des Dieux. Et l'acte 2, eh bien c'est le meeting proprement dit, immersif et olfactif. Il y aura deux odeurs, celle de la mer et celle de l'espace, Frédéric.
Alors Jean-Luc Mélenchon, on vient de le comprendre encore mieux avec vous, Laurence Perron, a l'intention de surprendre, mais il devrait également avoir deux cibles dans son viseur, Emmanuel Macron et une autre à gauche.
Oui, alors sans doute, mais il ne devrait quand même pas trop s'attarder sur les bisbilles à gauche. Il l'a déjà dit hier, ça n'est pas mon affaire. La social-démocratie moribonde, comme il la qualifie, s'agite. Lui poursuit son chemin. Ce meeting, il l'a pensé un peu comme une nouvelle entrée en campagne, où il entend dépasser toutes les frontières, celles de la gauche, celles de la mer, celles de l'espace, pour poser les bases de la révolution politique, sociale, écologique et démocratique qu'il appelle à l'avenir. Bref, on s'attend limite à voir Dieu lui-même si toutefois il existe.
Laurence Perron avec Lucien Lefebvre à Nantes. Merci à vous deux. Invité de ce journal, Rémi Lefebvre, politiste, spécialiste de la gauche et professeur de sciences politiques à l'université de Lille 2. Et votre livre, Faut-il désespérer de la gauche, est à paraître prochainement aux éditions textuelles. Bonjour Rémi Lefebvre.
Bonjour.
Alors d'abord, Jean-Luc Mélenchon vient d'entendre Laurence Perron, meeting cet après-midi d'un nouveau genre, un événement politique positif. Quelle attitude, selon vous, doit-il adopter Jean-Luc Mélenchon? Comment doit-il se positionner dans cette campagne avec désormais 8 candidats à gauche et à extrême gauche?
Écoutez, sa ligne d'action est très claire. Ce qu'il entend faire prévaloir dans la campagne, c'est son programme, c'est son discours. Donc son discours, c'est de dire finalement, il ne doit pas y avoir de défaitisme à gauche. La question de la désunion pour lui n'est pas un problème, alors ce qu'on peut évidemment contester, mais qu'il faut en fait produire des propositions, toucher le public, politiser la société qui aujourd'hui s'intéresse assez peu en fait à ces élections et aller chercher les milieux populaires sur la base en fait de ces propositions. Donc il a commencé très tôt sa campagne, Jean-Luc Mélenchon, et son leitmotiv c'est finalement de ne pas faire attention au bruit assourdissant de la division à gauche et de décliner ses propositions. Et pour lui c'est très important ces meetings parce que lui il croit un effet campagne qui s'était produit en 2017. C'est-à-dire qu'il pense que la campagne va pouvoir donner de l'écho à ses propositions et c'est sur la base de ses propositions avant les débats télévisés qui seront un petit peu le climax en fait de la campagne qu'il entend en fait convaincre les Français au-delà des bisbilles et des luttes picrocolines à gauche en fait.
Rémi Lefebvre, il y a eu hier deux événements à gauche avec l'annonce de la candidature de Christiane Taubira hier matin à Lyon et puis la liste des candidats de la primaire populaire. Est-ce que ces événements sont vraiment de nature à clarifier cette campagne à gauche? Quel est l'impact de la primaire populaire, par exemple?
Écoutez, je ne sais pas. On attend un peu comme on attend Godot la décantation de cette campagne. Et plus grande est toujours la confusion. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on observe depuis des semaines, c'est que les candidatures contre la désunion se multiplient. C'est-à-dire qu'au fond, il y a 8 candidatures et il y a une candidature de plus, celle de Christiane Taubira, pour lutter contre la division, mais qui la renforce. Donc en fait, là, on est dans une situation, j'allais dire, un peu tragicomique à gauche. 8 candidatures alors que le potentiel de la gauche, il est à peine de 25%. Ça fait qu'aujourd'hui, finalement, on entend le bruit de fond qu'on entend à gauche, c'est uniquement celui de la désunion et pas du tout des propositions. Et j'ai rarement vu une campagne campagne qui est aussi droitisée. C'est-à-dire que concrètement, les thèmes du réchauffement climatique, les thèmes du pouvoir d'achat, de la justice sociale, qui sont quand même assez importantes hein, quand on regarde les enquêtes d'opinion, n'apparaissent pas du tout dans le débat. Et c'est en partie la faute de la gauche parce qu'elle n'arrive pas, en fait, dans ce chaos de candidature, dans cette situation particulièrement confuse, à défendre ses idées.
Rémi Lefebvre, est-ce que finalement, la gauche n'a pas abandonné la présidentielle dans moins de 3 mois? Et est-ce que pour la gauche, l'important, l'objectif, c'est en fait les législatives de juin?
Bah écoutez, c'est une hypothèse. C'est évident que on peut tout à fait penser qu'une partie des protagonistes de ces luttes, en fait, ont enjambé en fait l'élection présidentielle et pensent à la suite. Alors c'est quoi la suite? C'est effectivement les élections législatives, c'est le leadership à gauche, c'est l'idée que parce que finalement le problème de cette situation à gauche depuis 2017, c'est qu'il n'y a plus en fait de parti dominant. Hein, le PS a pendant des décennies été l'ossature de la gauche, sa colonne vertébrale. On pouvait penser que la France insoumise allait le devenir, ça n'a pas été le cas, les écolos non plus. Et donc finalement, chacun défend son appareil, son organisation, sa ligne politique, ses intérêts, parce que derrière, il y a des élus dans ces partis. Et finalement, on dit toujours que c'est une espèce de lutte des égos. Moi, je pense que c'est plutôt une lutte des appareils, c'est-à-dire que derrière aussi les candidatures présidentielles, il y a des organisations qui entendent, même qui sont de plus en plus faibles, hein, certains. En termes de militants, ça représente plus grand-chose, mais effectivement, qui défendent ou une ligne politique qu'ils jugent non négociable, c'est les écolos, ou un appareil, donc là, c'est Fabien Roussel avec le Parti communiste, ou le PS, voilà. Et donc, effectivement, les élections législatives qui déterminent les dotations publiques des partis pendant 5 ans, donc c'est très important sur le plan financier, sont un des calculs, effectivement, de ces partis.
En 3 mots, il nous reste peu de secondes, Rémi Lefebvre, l'état d'esprit des électeurs de gauche, on sent un désenchantement très profond.
Écoutez, il y a deux possibilités. Ou bien il y a un mécanisme de vote utile qui s'opère, c'est-à-dire que les électeurs de gauche vont en fait vont se rassembler derrière le candidat qui est le meilleur dans les sondages. Mais pour l'instant, même si Jean-Luc Mélenchon est un peu devant, il n'y a pas vraiment de candidat qui se détache. Ou bien, et celle-là, ça serait une hypothèse très inquiétante pour la gauche, les électeurs de gauche désenchantés, parfois même très en colère, ne vont pas voter. Et là, on a eu des enquêtes sur la participation électorale qui sont très inquiétantes, puisqu'on annonce un record d'abstention à l'élection présidentielle. Bon, évidemment, c'est encore trop tôt pour savoir si ces enquêtes seront vraiment confirmées, mais il est fort probable qu'il y ait une forte abstention d'électeurs de gauche désorientés qui finalement disent bah, « Très bien, vous n'avez pas réussi à vous entendre, eh bien, on n'ira pas,
on n'ira pas voter
le jour de l'élection. »
Merci. Merci beaucoup, Rémi Lefebvre, professeur de sciences politiques à l'université de Lille 2 et spécialiste de la gauche. Merci à vous. Une enquête interne à BFM TV et RMC après la plainte hier pour agression sexuelle contre Jean-Jacques Bourdin. Le groupe Altice Média annonce le lancement de cette enquête après avoir appris par voie de presse l'existence de cette plainte. Le groupe explique s'être entretenu avec Jean-Jacques Bourdin qui a vigoureusement contesté les faits dénoncés. L'enquête interne doit permettre de s'assurer qu'aucun fait de ce type n'a été porté à la connaissance des managers ou des collègues des personnes intéressées. Une ancienne journaliste de BFM TV et RMC affirme que lors d'un déplacement en Corse en 2013, Jean-Jacques Bourdin a tenté à plusieurs reprises de l'embrasser. Épilogue de 2 semaines parlementaires mouvementées, le pass vaccinal revient à l'Assemblée. Dernière étape avant son adoption définitive, le Sénat a voté hier soir en faveur d'une nouvelle version du texte en supprimant par exemple la possibilité de procéder à des vérifications d'identité de la part des professionnels en cas de doute sur le détenteur d'un pass. Des désaccords qui persistent donc avec les députés, mais ils auront le dernier mot cet après-midi. Et puis concernant l'épidémie de coronavirus, malgré une circulation du virus toujours en hausse, on observe des signes encourageants et même une amorce de décrue des admissions dans certains hôpitaux. Djiali Hanan, chef du service de réanimation à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches dans les Hauts-de-Seine.
Je suis optimiste et prudent. En effet, on constate sur le terrain depuis quelques jours une sorte de ralentissement des sollicitations pour admettre des patients graves en réanimation, alors que nos services, notamment en Île-de-France, restent occupés à plus de 80% par des patients atteints de la Covid-19. Il faut le rappeler. Il est probable que le pic des hospitalisations soit atteint. Pour le pic en réanimation, on pense que ça risque de continuer d'augmenter jusqu'à la fin du mois. On espère que ça arrêtera avant parce que nos capacités restent limitées. Omicron aujourd'hui touche tout le monde, donc y compris les soignants. Du coup, ça fait des forces en moins pour s'occuper des patients dans les services et parfois ça amène à transitoirement fermer des lits supplémentaires. Donc on est vraiment dans une situation très compliquée à gérer du point de vue du capacitaire en réanimation.
Djilali Annan, ce matin sur France Info. Et hier, la mobilisation des antipasses a connu un net recul. Le nombre de manifestants a été divisé par deux par rapport à la semaine dernière. 54 000 personnes dans les cortèges hier partout en France contre plus de 105 000 manifestants il y a une semaine à Paris lors de la manifestation organisée par les Patriotes de Florian Philippot. Une équipe de journalistes de l'AFP a été menacée de mort et agressée par une cinquantaine de manifestants. Bonjour Ilia Bergel.
Bonjour à tous.
Une violence inédite jusqu'à présent.
Très vite après le début de la manifestation, les deux journalistes et leurs agents de sécurité sont identifiés par des militants d'extrême droite. L'un d'eux crie « C'est l'AFP, niquez-les, ces fils de pute ». Les gardes du corps qui travaillent avec l'agence France Presse depuis des années reçoivent des coups de matraque. Ils s'interposent le temps que les journalistes s'éloignent. Sophie Huette, rédactrice en chef centrale à l'AFP, assure qu'une de ses collègues a eu très peur pour sa sécurité.
Quand on entend quelqu'un qui vous dit « Je vais te tuer, regarde-moi bien, je vais te tuer » et qu'on se retrouve face à 50 personnes qui se montrent hostiles à votre égard, une chose est claire, c'est que si jamais en tentant de partir, elle était tombée, elle aurait été rouée de coups.
Et Sophie Huette assure qu'un degré de violence a été franchi hier.
Une des journalistes qui était sur place a l'habitude de couvrir ces manifestations. Elle a clairement été face à quelque chose qui a dépassé ce qu'elle avait connu jusqu'à présent.
Et pour autant, l'AFP n'abandonnera pas les reportages dans les manifs anti-pass.
On ne va pas abandonner la couverture de l'information, parce que c'est notre métier, mais il est hors de question que nos journalistes prennent des risques inconsidérés.
Et l'agence France Presse va porter plainte après les violences d'hier.
Ilia Bergel, merci. L'épidémie de coronavirus, on le sait, a des répercussions dans plusieurs secteurs de l'économie. Chaque pays a mis en place des règles sanitaires. Si certains ont décidé de garder leurs frontières fermées, comme la Chine ou encore le Maroc, d'autres restent ouverts sous conditions. C'est le cas en Europe, même si la situation peut encore évoluer. Mais en attendant, certains agriculteurs pensent déjà aux récoltes. La saison se prépare dès maintenant et il faut des bras pour ramasser les fleurs, les légumes ou les fruits. Et cela dès le mois de mars, des saisonniers parfois venus du Maroc, de Pologne ou d'Espagne, 20% des travailleurs saisonniers sont étrangers. Dans ce contexte instable, les agriculteurs sont inquiets, Kathleen Comte.
Chaque année, à partir de septembre, Boris Bouquet a besoin d'une vingtaine de saisonniers pour l'aider à ramasser ses pommes. Son verger normand à Belménil fait 25 hectares et l'arboriculteur a également besoin de saisonniers pour tailler ses arbres fruitiers, 4 à 6 personnes pendant plusieurs semaines et ce, dès le mois de mars.
Il faut des gens formés et équipés de matériel pour venir tailler chez nous et donc on l'espère que tout va bien se passer et que nos prestataires seront présents.
Faute de saisonniers locaux, l'agriculteur fait appel à des Marocains ou à des Espagnols.
Bah, on a de plus en plus de mal, oui, à trouver des personnes localement ou même régionalement qui souhaitent venir travailler 5 à 6 jours la semaine en extérieur. Ça peut être une crainte parce que nous, on ne peut pas faire autrement que de récolter manuellement.
Frontières fermées, contexte sanitaire instable. Pour Jérôme Vol, vigneron et vice-président de la FNSEA en charge de l'emploi, il y a de quoi être inquiet.
Tant qu'on n'a pas son équipe constituée, on n'est pas sûr de pouvoir récolter l'ensemble de sa production. Donc, évidemment, on a une inquiétude forte. Et sur le plan moral.
Selon lui, il faut redynamiser le secteur.
On est en train de travailler avec Pôle emploi, avec un certain nombre de plateformes aussi de mise en relation entre les employeurs et les potentiels saisonniers. Donc il y a besoin d'anticiper évidemment sur ces sujets-là.
Chaque année en France, le secteur agricole emploie plus d'un million de saisonniers.
Kathleen Comte. Et on termine ce journal avec l'histoire d'une passion. Une passion de collectionneur. À Barcelone, un homme récupère et collectionne des carreaux de ciment. Ce sont des carreaux décoratifs de l'époque moderniste que l'on trouvait dans la plupart des appartements des quartiers bourgeois et notamment dans les bâtiments signés de l'architecte Antoni Gaudí. Avec la réhabilitation de ces appartements, ils disparaissent peu à peu. Mais Joan Moliner entend bien sauver ce patrimoine de façon désintéressée. Henri Delaguéry l'a rencontré.
Quand il traverse Barcelone à vélo pour se rendre à son travail, Joan Moliner a toujours un œil sur les sacs de chantier déposés sur le trottoir. C'est là qu'il récupère ses carreaux de ciment de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Ça coûte souvent trop cher de les restaurer quand on refait un appartement. Et pourtant, ils sont emblématiques du modernisme catalan. Ce passionné les stocke ensuite sur sa terrasse.
Ici, par exemple, on a des carreaux avec des fleurs et des ornements. J'en ai aussi beaucoup avec des formes géométriques.
Celui-là imite l'art arabe. Et puis ici, on en a un avec 6 ou 7 couleurs.
Derrière ces carreaux, tous faits à la main, on trouve une date, un lieu et le nom du fabricant. Les récupérer est une façon de sauver une partie du patrimoine de la ville.
On
risque de perdre l'essence de ce qui fait le modernisme. Un immeuble, ce n'est pas qu'une façade. C'est une façade et l'intérieur. Si on ne conserve que la façade et qu'il ne reste rien dedans, bah, c'est comme une personne. Une personne qui n'a qu'une façade n'a pas de sentiment, elle n'a rien en fait.
Un par un, à la main, il restaure patiemment les près de 1600 carreaux qu'il a trouvés en 7 ans. Certains sont devenus des éléments de décoration, mais il ne souhaite pas en faire un commerce. À travers son compte Instagram, il veut surtout mieux faire connaître ses carreaux, éviter qu'ils tombent dans l'oubli. Barcelone, Henri de Laguéry, France Inter.
La météo pour les heures qui viennent et pour demain.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes, toutes naturelles, cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton, et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Jean-Michel Golinski.
Du soleil et du ciel bleu cet après-midi pour les régions les plus au sud, c'est-à-dire des Pyrénées aux Charentes, du Golfe du Lion au Massif central, ainsi que de la Corse en remontant vers les Alpes et le Jura. Mais plus au nord, la grisaille va rester soudée, avec par-dessous des pluies faibles entre la Manche et la Loire, et parfois des flocons des Ardennes à la Lorraine. Comme hier, la douceur va se réfugier sur les littoraux océaniques et de la Méditerranée, avec 10 à 14 en général, 15 pour la Corse. Dans le nord-est, on ne va pas dépasser 2 à 5 degrés, et il fera 5 à 8 du Midi-Pyrénées au centre Val-de-Loire et de la région parisienne au Hauts-de-France. Demain, les gelées seront moins vives que ce matin, mais tout de même encore présentes, du sud-ouest en allant vers le Massif central et le nord-est, avec un ciel dégagé près des Pyrénées, de la Méditerranée aux Alpes. Ailleurs, les brouillards givrants vont évoluer lentement en journée, avec de meilleures chances de trouver l'après-midi à proximité de la Manche.
Jean-Michel Golinski de Météo France.